France Inter.
Tout de suite à la Libération, des amis m'avaient engagé à écrire les souvenirs se rapportant à la poésie et à la résistance. J'ai trouvé à ce moment-là que je n'avais pas de recul et que c'était pas à chaud qu'il fallait écrire un livre de cet ordre. Et j'ai attendu 30 ans.
Histoire 2.
J'ai eu l'ambition de retracer ce qu'a été cette époque, c'est-à-dire que ce livre est un récit historique, et à cette histoire ont été mêlés les poètes, dont nombre d'entre eux étaient de mes amis.
Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pierre Séguers était poète, résistant et éditeur. Vous vous souvenez de ces petits livres carrés formant la collection Poètes d'aujourd'hui ? Le premier numéro parut en 1944 et était consacré à Paul Éluard. Pierre Séguers y accueillait ses amis Aragon, Desnos et René Char, mais aussi ceux que Supervielle appelait « nos amis invisibles », Lautréamont ou Hugo, et tant d'autres encore bien visibles, faisant entrer, aux grandes dames des puristes, la chanson de Ferré, Brel, Brassens dans sa camaraderie poétique. Bien entendu que la collection existe encore, ainsi que les éditions Séguers, car la poésie résiste. Voilà de quoi nous avons envie de vous parler aujourd'hui, à l'occasion de la réédition en deux beaux volumes du livre classique de Pierre Séguers, « La résistance et ses poètes », paru en 1974, il y a près de 50 ans. « Jeunes gens qui me liraient, peut-être, pensez-y, les bûchers ne sont jamais éteints et le feu pour vous peut reprendre », y lit-on en exergue. Alors oui, nous allons parler de ce feu, le feu des rimes, le feu des armes, puisque, et je cite encore Pierre Séguers, c'est cela aussi la poésie de la résistance, maintenir ce qu'il y a de plus haut, de plus mystérieusement beau, en dépit des conditions de création, affirmer que l'esprit, l'âme de l'homme et leur langage sont les plus forts. On en parle dans Histoire 2 avec notre invitée Anne Simonin, rejointe dans la seconde partie de l'émission par le sociétaire du jour, Paulin Ismar, et par Olivier Barbaron, un poète d'aujourd'hui, lecteur d'Aragon au présent, qui viendra défendre son idée de la résistance poétique. Anne Simonin, bonjour.
Bonjour, Patrick Boucheron.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, historienne de l'édition et du devoir d'insoumission, ce qui revient d'ailleurs parfois au même, dans le cas d'une maison née de la résistance, comme les éditions de Minuit, dont vous avez retracé l'histoire dans un livre paru en 2008. Les auditrices et les auditeurs de notre émission vous ont déjà entendu l'année dernière à propos de la parution d'un texte inédit de Céline, Guerre, que son éditeur Gallimard présentait de manière sans doute un peu empressée, comme un roman posthume, et j'en profite pour dire que les doutes que vous exprimiez alors sur la nature de ces textes ont été depuis confirmés par la publication chez Alia d'un livre de Jean-Pierre Thibaudeau, Louis-Ferdinand Céline, Le Trésor Retrouvé. Entre-temps, le programme d'édition se poursuit, Londres cet automne et la volonté du roi Krogold annoncée pour avril. Je me souviens, Anne Simonin, que vous étiez à la fois passionné par la puissance littéraire de ses textes et agacé par la fascination qu'elle exerce aujourd'hui, comme si l'abjection était l'horizon ultime de la littérature. On peut aussi faire entendre d'autres voix.
Oui, et c'est tout l'intérêt de la réédition, me semble-t-il, du livre de Pierre Séguers. J'ai été vraiment... quand on relit des livres que j'ai lus, parce que effectivement j'ai d'abord travaillé sur la résistance, je trouve qu'il y a une actualité absolument formidable à ce livre, parce que c'est presque une chose physique, c'est presque une actualité de contrepoids. Je pense qu'on est tellement dans une actualité éditoriale qui donne une place absolument centrale à un auteur comme Céline, dont je ne méconnais évidemment pas l'importance dans la littérature française, mais j'ai juste envie de dire, il s'est passé d'autres choses, des choses au moins aussi importantes, et je persiste à ne pas comprendre pourquoi la littérature de la résistance, entendue au sens large, est finalement aussi peu présente oui. dans la mémoire contemporaine.
Et d'ailleurs, la commémoration des 80 ans du silence de la mer de Vercors a fait beaucoup moins de bruit en 2022 que la découverte des textes céliniens. Vous avez donné cet été une magnifique conférence au banquet du livre de La Grâce sur les silences du silence de la mer, qui restituait la force de cette œuvre injustement négligée. On peut l'écouter en ligne. Et votre propos s'achevait, Anne, par une déclaration très forte. Ce que Vichy nous a volé, ce qui ne nous sera jamais rendu, c'est un imaginaire.
Oui, je pense vraiment ça. C'est-à-dire que malgré tous les efforts qui ont été ceux du général de Gaulle, qui a un espèce de côté Don Quichotte, d'une certaine façon, en défendant l'idée qu'il préférait les mensonges qui élèvent les Français aux vérités qui les abaissent. Les mensonges dans la geste gaullienne, pour moi, ça fait référence à un imaginaire, à celui de la princesse des contes. Et il a, Dieu sait qu'il a essayé, qu'il a été soutenu par certains par rapport à cette ambition-là, c'est-à-dire de défendre pied à pied l'imaginaire de la France, celui légué par la République de l'an 1, par la Révolution, par l'universalisme de la Révolution française, auquel il s'est vraiment raccroché d'une certaine façon et auquel il a raccroché la France en 1940, quand Vichy a représenté le plus grand décrochage jamais connu dans l'histoire de ce pays par rapport aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est la Révolution française qui a accordé la citoyenneté aux Juifs, c'est Vichy qui les en a déchus et a préparé en quelque sorte leur déportation par les Allemands dans le cadre de sa politique volontaire de collaboration avec l'ennemi. Donc il y a derrière ça une chose où rétablissons les deux plateaux de la balance et venez lire d'une certaine façon Segers pour comprendre, parce que le projet de Segers, c'est de remettre la poésie au centre de l'histoire. C'est-à-dire qu'il va vous raconter l'histoire des années 1944 en prenant comme fil rouge la poésie.
Ah, il le raconte vraiment, hein, c'est chronologique. C'est à la fois un livre de souvenirs, une anthologie et une histoire de la résistance.
Voilà, et si vous voulez comprendre la guerre du côté de ceux qui ont résisté, eh bien, il faut lire Pierre Segers. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment, j'étais absolument émerveillée en disant, puis il est très soucieux de la chronologie, en disant non, je ne vais pas parler de ça à ce moment-là, je vais attendre un peu. Et il vous donne la centralité, parce que c'est peut-être ça la révolution de la résistance d'un point de vue littéraire, c'est la centralité retrouvée de la poésie. D'une poésie qui est une poésie populaire. Et c'est toute l'importance qu'il y a avec Aragon, parce que Aragon redécouvre la rime, et à la suite de ce qu'aurait été, alors je sais bien que c'est disputé, mais un moment malarméen qui rendait la poésie un peu trop ésotérique, on retrouve la nécessité et une veine populaire de la poésie à travers, et en particulier Aragon, qui est un personnage central pour Segers.
On en parlera tout à l'heure avec Olivier Barbaron, mais j'avais envie de vous poser une question toute simple, Anne Simonin. Comment comprendre cette action poétique dans le combat clandestin? Pourquoi Louis Aragon écrit-il justement la rime en 1940, parue aux armées dans la revue Poète casqué 40 de Pierre Segers? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la poésie est urgente, d'une certaine manière. Elle fait partie du feu de l'action clandestine, y compris du point de vue de l'édition, d'ailleurs.
Absolument. Et ce qu'il y a d'assez formidable, c'est de voir comment la poésie va se répandre comme une sorte de traînée de poudre. Et c'est visiblement parce qu'il y a la volonté de remailler des rapports sociaux qui sont très éclatés et qui vont faire que les poètes vont prendre au vol, en quelque sorte, cette exigence et recréer du lien. Et on voit comment... C'est pour ça aussi que la rime a cette importance, c'est que les poèmes peuvent être lus dans des publications qui sont ce qu'on appelle de contrebande, et notamment celle de Segers, puisque c'est lui qui crée la première revue Poète casqué, alors qu'il est mobilisé en 1939. Elles peuvent être lues également dans des publications clandestines, mais les tirages sont très étroits, parce qu'il y a une contrainte du papier, il y a une contrainte d'encre, il y a une contrainte de risque aussi, même pour les publications dites de contrebande, c'est-à-dire ce que disait Aragon, cet art de dire des choses interdites avec des mots autorisés. Et donc, il y a la façon que, je pense, l'opinion publique peut se remémorer les textes grâce justement à ce retour à la rime et donc les citer peut-être plus facilement que lorsqu'il n'y avait pas cette béquille de la rime pour se remémorer les textes de la résistance.
Alors, il y a évidemment beaucoup de noms, hein, certains connus, d'autres moins connus dans cette histoire. Le seul auteur survivant à ce jour, c'est une autrice, Madeleine Riffaut, née en 1924. Une très belle bande dessinée d'ailleurs raconte son histoire, Madeleine résistante. Elle fut officier FTP à 18 ans, adjointe du colonel Fabien, et elle a notamment écrit ce court poème « Neuf balles » qui rend bien compte justement de ce passage à l'acte, à la fois comme acte poétique et action violente. « Neuf balles dans mon chargeur pour venger tous nos frères, ça fait mal de tuer, c'est la première fois. Sept balles dans mon chargeur, c'était si simple. L'homme qui tirait l'autre nuit, c'était moi. » Il y a d'ailleurs beaucoup de voix féminines dans la résistance.
Oui, alors ça fait partie des grands chantiers de l'histoire contemporaine actuelle, c'est-à-dire la redécouverte du rôle des femmes dans la résistance, qui n'étaient pas simplement des courriers entre les résistants et qui ont eu, effectivement, pour certaines d'entre elles, que ce soit Bertie Albrecht dans le mouvement Combat, Marie-Madeleine Fourcade, des positions tout à fait dominantes et organisatrices. Et il y a chez Segers, alors c'est là aussi que c'est vraiment intéressant, la vraie volonté de rétablir les femmes à leur juste place. Il y a un très beau portrait de Madeleine Riffaut dont vous venez de parler, mais il y a également toute l'histoire du chant des partisans, volé ou pas à Anna Marley.
Oui.
Et la façon dont Segers gère ça, en menant véritablement l'enquête pour savoir qui, de Joseph Kessel, Maurice Druon ou de Anna Marley, a réellement écrit le chant des partisans, est d'un point de vue historique absolument passionnante. Parce que on se rend compte que c'est les trois, mon général, mais avec quand même un primat accordé à Anna Marley.
Alors vous aviez aussi envie, Anne Simonin, de nous parler de Robert Desnos, l'immense poète de la Résistance, avec lequel d'ailleurs c'est Céline avait été particulièrement abjecte. Écoutons un témoignage bouleversant, celui d'un étudiant tchèque, Joseph Stuna, qui le 7 juin 1945 reconnaît Desnos atteint par le typhus dans le camp de Térézine. Il meurt le lendemain, le 8 juin, une fleur d'églantier dans sa main, disant ses dernières paroles, c'est le matin le plus matinal.
À ce moment, je lis sur la feuille de température le nom de Robert Desnos, né en 1900 à Alençon. Je me souvenais que j'avais lu, avant la guerre, traduit en tchèque, des poésies d'un homme de ce nom-là. Ça ne me semblait pas possible. J'aimais beaucoup ces poésies. Je suis allé à la baraque numéro 2 et là j'ai trouvé un homme qui était couché sur sa paillasse en papier. Il était si maigre. Il portait des lunettes. Il avait un grand nez, de grands yeux clairs. Enfin, il ressemblait tout à fait à une photographie que j'avais vue dans le livre Nadja du poète surréaliste André Breton. Je m'approchais de lui et je lui posais la question. Connaissez-vous le poète Robert Desnos? Je n'oublierai jamais son regard à ce moment. Cette question tombait sur lui comme le soleil, ou comme une pluie de fleurs dans une cage, ou dans une prison.
Anne Simonin.
Il était l'un des poètes surréalistes les plus importants. Il a suivi une voie qui est un peu différente de celle d'Aragon, qui, parce qu'il était moins politique, et Desnos a travaillé longtemps au journal Aujourd'hui, où il a eu maille à partir avec Céline, qu'il a dénoncé comme juif, même si ça n'est pas Céline qui est à l'origine de l'arrestation de Robert Desnos. Ce qu'il y a vraiment d'intéressant avec Desnos, c'est qu'il fait en quelque sorte le lien entre Breton et Aragon. Breton ou Benjamin Perret, qui n'ont jamais admis la conversion de la poésie à la rime en considérant que c'était une trahison par rapport à l'exigence surréaliste, et Aragon qui en aura été le chantre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un très beau poème de Robert Desnos qui s'appelle Le couplet de la rue Saint-Martin, où il est en transition entre ces deux mondes, et je vais en lire, il y a juste quatre rimes. Je n'aime plus la rue Saint-Martin, depuis qu'André Platard l'a quittée. Je n'aime plus la rue Saint-Martin, je n'aime rien, pas même le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. C'est mon ami, c'est mon copain. Nous partagions la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin.
Histoire 2 sur France Inter.
Alors qu'allons-nous écouter? Vous avez tenu absolument, Anne Simonin, à ce qu'on écoute Ici Londres d'Axel Bauer.
Oui, qui était un montage qu'Axel Bauer a fait de la voix de son père, Fred Bauer, qui était le speaker de Radio Londres.
Avec des messages codés.
Avec les messages codés qu'envoyait la BBC et qui est un magnifique texte poétique.
C'était Jean Cuchet, c'était Jean Marin, c'était Jean Berlet, c'était Jacques Bonnieus, c'était important, c'était Maurice Schumann.
Vatican doit faire avec. Et la Valkyrie nous tamponne. Si l'on en croit Radio London. La girafe est dans les nuages, les yeux brouillés par le carnage. Le serpent nous tire les sonnettes, le facteur s'endort sous nos fenêtres. Ici Radio Londres, on est armé pour vous faire de Londres. Ici Radio Londres, à d'autres temps on n'était plus résistant.
Les Français parlent aux Français.
Il pleut toujours sur Baker Street. Ce soir, Sherlock aura la frite. Sanglots de violon à l'automne. Si l'on en croit Radio London. En d'autres temps, on n'était plus résistant.
En 1776, la lutte du peuple français pour sa libération.
Vous êtes bien sûr France Inter et vous écoutez Histoire 2 avec notre invitée Anne Simonin. Nous relisons ensemble ce livre de Pierre Segers, La Résistance et ses poètes, réédité en deux beaux volumes aux éditions Segers. Car si la poésie résiste, tel est le titre de notre émission, c'est du fait de la puissance des fractions de ces poètes dans notre aujourd'hui. Mais Paulin Ismar, cet aujourd'hui, il est à double fond, car le livre de Pierre Segers, pensé dès 1944, rêvé dans les années 60, n'est publié qu'en 1974, à un moment de bascule mémorielle par rapport aux années de Vichy.
Oui, puisque 1974, c'est presque contemporain du Chagrin et la Pitié, qui date de 1971, de la France de Vichy, de Paxton. Et les années 70, plus généralement, marquent un moment de transformation du discours mémoriel autour de la résistance et de la France en guerre. Et il y a tout un débat qui est très intéressant aujourd'hui parmi les historiens de la résistance, qui s'intéressent pas seulement à ce que fut la résistance, mais aussi à la mémoire de la résistance dans la France d'après-guerre. Et en fait, on pourrait dire que le livre de Segers, de ce point de vue-là, est un peu à contre-temps. Parce qu'une question quand même importante pour nous aujourd'hui, c'est celle de savoir si il y a vraiment eu, comme on l'a longtemps avancé dans les années 80, 90, ce qu'on appelait un mythe résistentialiste, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on aurait construit dans la France d'après-guerre, des années 40, 50, 60, un grand discours unitaire qui aurait, à tort, prétendu que la France était unie derrière la résistance. Et je crois que les historiens, Pierre Laborie, Jean-Marie Guillon notamment, ont montré que ce mythe, en fait, n'avait pas existé. En tout cas, qu'il n'existe pas dans le discours gaulliste, ni d'ailleurs véritablement dans le discours communiste. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en réalité.
Anne-Simone.
Oui, je pense que ça tient à l'incompréhension de la notion de fiction. C'est une fiction juridique, la France résistante. Le général de Gaulle a pensé qu'on allait faire comme si la France était résistante, parce qu'il avait besoin de donner cette image-là aux Français pour la reconstruction. Et une fiction juridique, c'est pas une fiction tout court. Et donc, je pense que c'est vraiment un mécanisme qui a été dénoncé politiquement et qui l'a été surtout par la droite. Enfin, le mythe de la résistance, de la quatrième heure, il n'y a jamais eu d'illusion de la part du général de Gaulle là-dessus. Mais il y avait une nécessité pour reconstruire la France, de laisser la France imaginer qu'elle avait été résistante.
Oui. Et une des manières, on l'a bien compris, de relire cette histoire de la résistance, c'est d'entendre à nouveau ces poètes. Je voudrais vous faire entendre une archive extraordinaire. Moi, je trouve ça vraiment bouleversant. C'est un maquisard qui dit en 1967 quel type d'homme était son chef, le capitaine Alexandre. En fait, c'est René Char. Mais comme on dirait familièrement, René Char, comme combattant, c'était vraiment pas un poète. Écoutez-le.
Lui ? Oh, il était dur. Puis vous savez, il était ferme, bien long, juste. Hein. Voilà, comme ça. Et j'ai jamais trouvé un chef de son genre. Hein. Il n'y a rien à faire. Parce que quand lui vous disait quelque chose, c'est que vraiment, il avait un motif. Et puis, je vous dis, il était précis. J'ai fait peut-être, je ne sais pas combien de missions pour lui. Mais c'était toujours vraiment... Ce qu'il disait, ça se réalisait.
Bah voilà, ça c'est une définition magnifique de la poésie comme leçon d'exactitude. Ce qu'il disait, ça se réalisait. Paulin Ismar, vous aviez aussi envie de parler de Jean Cassou, qui, lorsqu'il fut arrêté pour fait de résistance à la prison militaire de Toulouse en décembre 1940, composa de tête des sonnets qu'il mémorisait, qu'il réussissait à faire passer clandestinement aux éditions de Minuit, qu'il publia sous le pseudonyme de Jean Noir avec une préface de François Lacolère, qui n'était autre que Louis Aragon.
Oui, bah c'est une histoire, vous venez de la raconter, assez extraordinaire. Ces 33 sonnets composés au secret de Cassou, qui traduit aussi un poème d'Hoffmannsthal, qui est mentionné dans le livre de Segers, de tête, et c'est quelque chose en fait de traduire un poète allemand dans ce contexte. Oui, bah Cassou, c'est un personnage extraordinaire, mais qu'on pourrait suivre comme ça dans la très très longue durée, puisque après la guerre, il est commissaire de la République à Toulouse au moment de la libération, et puis il abandonne la préfectorale pour fonder le Musée national d'art moderne, et qui continue à publier en tant que poète presque jusqu'à la fin de ses jours.
Et il va aussi défendre la résistance dans un livre très important qui s'appelle La mémoire courte, aussi paru aux éditions de Minuit, où dès 1950, il va voir le danger que représente le fractionnement de la résistance sous l'emprise de la guerre froide et l'anticommunisme qui monte. Et ça va être une façon de remettre les pendules à l'heure, à laquelle fait écho, me semble-t-il, le livre de Segers.
De Pierre Segers, oui. Olivier Barbaron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes poète, écrivain, essayiste. Vous êtes un grand spécialiste d'Aragon. Vous avez dirigé les deux tomes de ses œuvres poétiques dans la Pléiade en 2007. Et lorsque vous commencez à vous y intéresser comme jeune homme, Aragon venait de mourir, vous aimez beaucoup d'ailleurs ses œuvres de vieillesse, on pourrait y revenir, qui ne sont pas vraiment considérées parce qu'on considère comme justement un poète qui avait fait son temps. Et vous, vous vouliez le ramener dans le vôtre.
Dans le nôtre, dans le sien, enfin dans le siècle. Et dans la charnière du siècle, oui, je crois que la grandeur d'Aragon résistant et théoricien de la résistance fait oublier qu'il n'a jamais cessé de résister, qu'il résistera après la période dite de l'occupation. Je crois que Le Fou d'Elsa, par exemple, en 1963, est un acte de résistance poétique à la guerre d'Algérie immense, dont je pense que l'origine et même la construction ne s'entendent pas sans cette école qui a été pour Aragon, l'école qui l'a fait passer d'une poésie militante à une poésie de résistance, qui renoue avec le passé, qui renoue avec le passé de son pays, avec le passé des formes, et qui comprend que c'est comme ça et avec cela qu'on va pouvoir peut-être se battre sur le terrain du siècle. Et donc tout le reste de son œuvre demeure une poésie de résistance, même si cette résistance s'effectue pour d'autres choses et avec d'autres enjeux évidemment. Mais après tout, la guerre d'Algérie était une guerre à laquelle il s'agissait de résister, et ça date de 63.
Oui, justement, Anne Simonin, il y a cette catégorie littéraire qui embarrasse un peu nos études, qui a été inventée par Paul Valéry, reprise par Jean-Paul Sartre, qui est la littérature de circonstances. Et d'une certaine manière, les circonstances poétiques de l'action d'Aragon, à un moment donné, collent à sa postérité. C'est-à-dire qu'on ne veut plus considérer sa capacité de réactualisation.
Oui, et puis c'est une façon aussi de disqualifier, justement, de passer de la notion de militance à circonstance, c'est pour dire que c'est de la poésie civique, et ce sera ce que Benjamin Perret appellera le déshonneur des poètes, en disant « un poète ne peut pas se commettre ». Moi, je pense que la circonstance, c'est vraiment la présence au monde de la poésie, et la rapidité de la présence au monde avec les dispositifs qui ont été créés, et qui, encore une fois, ont été quand même très impressionnants dans la France de l'occupation, puisqu'il y avait, en quelque sorte, les chevaux légers de la poésie qui étaient les revues, et ensuite, les publications aux éditions de Minuit, mais aussi à la Bibliothèque française d'Aragon. Et il y a eu, comme ça, une façon d'être, de vivre et d'actualiser sa présence au monde bien avant qu'on ne parle d'engagement ou que Sartre ne monopolise la notion d'engagement pour la littérature.
Olivier Barbarin.
Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est qu'au fond, le mot de résistance a deux sens. Il a tout à la fois le sens historique circonscrit, qui est la réaction qui a pu s'effectuer en France quand il y avait une grande dispute des imaginaires et qu'il a fallu se battre sur le terrain des imaginaires, se battre sur le terrain des formes et inventer une poésie de 40 à 45. Et puis, il y a la question de ce en quoi la poésie résiste et n'a jamais cessé de résister. Et elle ne résiste et elle n'est une bonne poésie de résistance, y compris au sens premier et historique du terme, que si quelque chose se noue sans doute, du rapport plein d'un sujet avec son monde et son temps, et avec la langue. Et parfois, il y a de la poésie qui essaie de s'inscrire dans la circonstance et qui résiste peu, même si elle fait, c'est celle qui devient proclamatoire et à quoi on réduit souvent, c'est une certaine type de poésie militante. Les intentions ne font pas le bon poème. Ce qui fait le bon poème, c'est l'exposition subjective profonde à la chair de l'instant.
Il y a une phrase dans le livre de Segers que j'aime beaucoup qui dit « Je n'aime que les poètes mineurs ». À chaque fois, on est amené à valoriser ou à dire il y a plus ou moins. Et c'est vrai que Aragon, de ce point de vue-là, est quand même une sorte d'aboutissement. Il a une puissance inventive, une puissance lyrique qui est très impressionnante. Mais c'est vrai aussi que, comme le disait Jean Paulhan, il n'y a jamais un poème ou un livre tout à fait mauvais. Et même dans un poème de circonstances mineures, il y a un ou deux vers qui sont la plupart du temps géniaux.
Vous avez quand même envie d'écouter Louis Aragon, lire
Oui, toujours.
Un temps de chien.
Il disait l'épouvante avec des cabrioles, eux qui du seul bonheur ayant connu l'école, de paroles n'avaient que les tours enseignées. Ils élisaient un maître et des talons où vivre, comme un morceau de sucre, ils mendiaient de suivre un soldat sans regard qu'à son propre tombeau. Voici l'heure où parlait le langage des sourds, et je n'ai que mes vers inventés pour l'amour, ainsi qu'un chien qui fait le beau.
Olivier Barbarin, comment vous l'entendez aujourd'hui ?
On l'entend comme tous ces poètes, comme Apollinaire massacrant sa modernité. Lui est toujours l'élève de Sarah Bernhardt. J'ai toujours à la fois beaucoup d'émotion à l'entendre parce que sa voix me touche, et en même temps, il massacre considérablement ce qui est aussi la modernité de son vers.
C'était vrai aussi de René Char d'ailleurs, mais vous avez préfacé les adieux, hein, le dernier recueil d'Aragon. Vous dites bien que jusqu'au dernier moment, il a bousculé, trituré, torturé son vers.
Oui, jusqu'au dernier moment, il a inventé, il a essayé de répondre à la totalité de l'histoire qu'il portait avec lui, de ses cicatrices, de ses combats, en réinventant ses formes et en les réélaborant, compte tenu aussi de la nécessité dans laquelle il était de parler. Parce qu'au fond, la résistance, c'est cela. C'est vraiment qu'un sujet émerge dans une vérité de parole et vienne casser les discours.
Anne Simonin.
Oui, c'est une très belle préface que signe Olivier Barbarin et qui remontre encore une fois qu'on connaît mal Aragon. On croit le connaître, on l'assigne tout le temps à des positions qui sont intenables à cause de sa proximité avec le Parti communiste. Et quand même, quand on lit Hölderlin, où il y a une puissance créatrice chez Aragon qui est juste bluffante. Et ce, oui, jusqu'à la fin. Voilà, donc merci.
Justement, on va rester pour terminer sur cette question de l'épaisseur du temps. Dans votre dernier recueil de poèmes, Olivier Barbaron, Séculaire, vous écrivez une complainte à la charnière du temps, un poème par an, depuis 1981, comme des annales poétiques, et pour 2015, on lit « Les pays calmes ont de la peine à revoir la guerre dans leurs rues ». Cette peine à voir, qui est à la fois une tristesse et une impossibilité, elle nous interroge justement comme lecteur, pour vous d'Aragon, comme poète, comme enseignant aussi, c'est comment revoir la guerre.
Ce qui m'a frappé lors des attentats, c'est que circulaient sur le net des tentatives de se raccrocher à des poèmes. Et je crois que les circonstances tragiques font cette unité, font ce retentissement de la poésie. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans certains pays, il y a une poésie dite de résistance qui ressemble plus à celle de 1940, qui peut se retrouver. Mahmoud Darwish a un rôle, je pense, auprès de son peuple, qui ressemble plus à celui d'Aragon pendant les années 40 qu'un poète d'aujourd'hui ne peut l'avoir. Mais ce qui m'a frappé, c'est que circulaient essentiellement des extraits d'Éluard, d'Aragon, de Desnos, dans des messages, dans des tweets.
De Victor Hugo aussi.
Ce qui me prouve, ou de Victor Hugo en effet, mais ce qui prouve qu'il y a à la fois transmission, malgré tout, on s'est raccroché à quelque chose, une parole qui pouvait peut-être dire quelque chose, ou d'un sentiment de la nation, ou d'un sentiment de la communauté, ou de la collectivité exposée à la blessure de la violence. Et en même temps, j'étais dérouté par le fait que, d'où avoir de la peine, c'était ces formes-là, anciennes, qui apparaissaient, que peut-être notre travail était peut-être d'essayer d'en trouver des un peu nouvelles.
L'aujourd'hui poétique, donc, ne se réduit pas à l'arrogance du présent, c'est un temps épais, profond, profus. Par exemple, pour vous, Paulin Ismar, le combat résistant fait ressurgir quelque chose d'essentiel, de primordial, on peut dire d'archaïque, dans la poésie, qui, depuis son ancrage homérique, chante la gloire des héros morts au combat.
Oui, et ce thème quand même de la mort qu'on se choisit, de l'héroïsme même qu'on se choisit et qui donne sa dimension réelle à la vie, à la vraie vie. C'est des expressions qu'on trouve par exemple chez Brossolette en 1943. Et la vie brève, l'idéal héroïque, la belle mort, c'est des thèmes qui sont évidemment des thèmes homériques, qu'on trouve déjà chez Homère. Et il y a un très grand historien qui était aussi un très grand résistant qui a fait ce lien à la fin de sa vie, à la demande d'ailleurs des historiens de la résistance qui étaient venus l'interroger. Cet historien, c'est Jean-Pierre Vernant, interviewé par Pierre Laborie notamment et Laurent Douzou, où à la fin de sa vie, alors que c'est quelque chose qu'il avait jamais dit jusque-là, il explicitait que ce qu'il avait recherché en particulier dans l'Iliade et toute sa réflexion autour de la vie brève, celle d'Achille, et la notion chez Homère de gloire impérissable, du héros qui meurt comme ça dans la fleur de l'âge, c'était quelque chose de son expérience de jeune homme résistant qui ressurgissait. Et ce qui est très frappant dans le livre de Séguère, c'est que il donne à lire un texte que Starobinsky, très très jeune, a publié en 1943, où Starobinsky évoque la vie brève d'Achille. Mmh. Dans le contexte de la résistance. C'est très frappant.
Et ça, pour vous, Olivier Barbaron, qui occupait encore des positions officielles dans l'enseignement des lettres en France, vous êtes inspecteur général. Alors, on sait, il y a les concours de la résistance, etc. Mais quel est pour vous l'enjeu dans l'enseignement de cette poésie résistante qui ne peut s'adresser effectivement qu'à la jeunesse ?
Double enjeu parce que double manière d'envisager le mot résistance. La poésie de cette période-là est, bon an, mal an, et malgré le fait que la poésie soit le genre sans doute le moins bien pris en charge par les cours de lettres aujourd'hui pour des tas de raisons qui sont liées à la formation des collègues, au fait que le lectorat professoral préfère majoritairement la fiction, l'autofiction à d'autres formes. Cependant, la poésie de la résistance demeure finalement le segment poétique le mieux enseigné par les classes de troisième, par les classes de seconde. Et donc quelque chose, une transmission se fait. À mes yeux, et quitte à passer pour un atroce esthète, il me semble que on risque aussi de faire basculer dans une poésie de la militance qui s'effectue au dépens peut-être de l'expression poétique. C'est-à-dire qu'on se contente du thème, et puis ce thème porte des valeurs auxquelles il faut adhérer, et on risque toujours la récupération idéologique et la neutralisation finalement esthétique.
C'est pas ça que vous voulez.
Et ce n'est pas ça qu'on veut, et cela rend la question pédagogique très grande, parce qu'il ne suffit pas de faire mimer aux élèves une opposition dans des vers comptés pour obtenir quelque chose qui soit une expression ou un sujet s'enracine au plus profond de sa langue et dit quelque chose d'un acte d'exister. D'où la difficulté, évidemment, à transmettre, mais je fais confiance cependant aux collègues pour ce faire.
Et quand on disait effectivement que la poésie résiste, elle résiste aussi dans les cœurs, dans les librairies, c'est que d'une certaine manière, il y a aujourd'hui, et particulièrement d'ailleurs ces dernières années, voilà, une attention aiguisée pour la poésie. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Simonin, pour terminer ?
En lisant Staroubinsky, auquel a fait allusion Paulin Ismar, le texte termine par « car il importe que certaines choses soient dites malgré toutes les contraintes et qu'elles soient dites par beaucoup ». Et c'est vrai que cette dimension populaire de la poésie, elle a du mal souvent à se raccrocher à une réflexion plus théorique sur les formes de la poésie. Alors moi, j'aime la poésie dans tous ses états. Je trouve formidable dans le métro d'avoir des petits poèmes qui sont souvent pas très réussis, lancés par la RATP, en disant c'est juste, à certains moments, un peu de douceur dans un monde de brut. Et je pense qu'il y a une acculturation à la poésie, et je crois que fondamentalement, la poésie qui est absolument centrale dans les études, vous savez qu'à Oxford, la dernière parole après la parole universitaire et la parole du poète. Et ça, c'est essentiel, quoi.
Et on pourrait justement terminer avec Jean Cassou. Lorsqu'un homme entièrement dépouillé de tout, il ne reste absolument que cette foi, cette ultime lueur de conviction et de protestation, alors un autre homme apparaît en lui et qui est la suprême figure de l'homme, un poète. Merci Anne Simonin, merci Olivier Barbaran, merci Paulin Ismar. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Jérôme Boulet. À la technique, Guillaume Roux. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques à la page de notre émission sur le site de France Inter. À la semaine prochaine. Très bon dimanche à toutes, à tous.